Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Temps hivernal, mais actualité tropicale. Ce matin, le Venezuela s'apprête à vivre une journée de manifestation contre Nicolas Maduro. Maduro qui manie la carotte et le bâton face à son opposant Juan Guaido. Il se dit prêt à négocier tout en l'interdisant de sortie du territoire. Nous serons à Caracas dans un instant. À la une également, la neige ce matin. Pas de panique, mais quelques difficultés. On verra ça en région parisienne et dans l'Essonne et en Bourgogne. La loi anti-casseurs à l'Assemblée et le discours martial de Christophe Castaner hier soir. Vous l'entendrez. Autre discours, probablement à 8h20 avec votre invité, Nicolas.
Oui, on verra, on lui posera la question. François Bayrou, le président du Modem, maire de Pau, est dans le grand entretien du 7-9. Question dès maintenant, 01 45 24 7000.
Au menu également, la croissance en 2018, plus 1,5%. C'est décevant, mais ça n'est pas grave, nous dira un économiste. La gauche qui tente de se rassembler sous la baguette de place publique. Et puis des fourmis, une araignée et une coccinelle, minuscule 2 au cinéma. Toujours aussi drôle et charmant.
France Inter.
Loin de la neige d'un hiver européen, sous le soleil exactement, l'éternel été vénézuélien et la révolution anti-Maduro en marche. Première manifestation de l'opposition aujourd'hui à l'appel de celui qui s'est autoproclamé président la semaine dernière. Juan Guaido demande à ses soutiens de paralyser le pays entre midi et 14h. Cet habitant de Caracas en sera rencontré par notre envoyé spécial Sacha Colman.
Georges a la cinquantaine souriante, il nous reçoit chez lui dans un immeuble hyper sécurisé du quartier de Los Dos Caminos. Mais ce mercredi, il sera dans la rue avec un scénario bien particulier. Il va partir travailler, mais il a décidé de s'arrêter là où il sera à midi pile. Il sera au volant de sa voiture, il s'arrêtera et ouvrira le capot pour faire croire qu'il est en panne. Car c'est l'idée de l'opposition d'arrêter la vie pendant 2 heures partout au Venezuela, 2 heures de paralysie au nom de la liberté. Parce qu'ici, explique Georges, nous ne sommes pas libres. On est prisonniers d'une dictature, mais pas seulement, du trafic de drogue. Ils sont corrompus et nous oppressent. Avec leurs armes, ils nous briment. Et quand on demande à Georges s'il n'a pas peur que les manifestations tournent mal et de mourir,
non,
à son âge, il n'a pas peur. Il en a vu d'autres. Il a reçu du gaz lacrymogène. Et ici, chez lui, les militaires sont même venus frapper à sa porte pour le chercher. Mais il n'a pas ouvert. Georges manifestera ce mercredi et c'est sa femme Trina qui lui communiquera au fur et à mesure par téléphone les endroits à éviter.
Sacha Colman, envoyé spécial de France Inter à Caracas, à quelques heures de cette première manifestation de la semaine à l'appel de Juan Guaido avant celle de samedi. Bonjour Benjamin Delisle.
Bonjour.
Vous êtes vous aussi à Caracas où Nicolas Maduro semble ouvrir une porte ce matin. Il dit qu'il est prêt à discuter avec l'opposition.
Oui, Maduro dit être prêt à s'asseoir à la table des négociations avec l'opposition, selon Reuters, pour le bien du pays, a-t-il précisé, sous l'égide de médiateurs internationaux. Ce n'est pas le premier appel au dialogue du chef d'État. Il avait déjà fait un appel à Juan Guaido pour une rencontre vendredi dernier. Et c'était assez étonnant parce qu'hier, le régime a donné le signe d'un durcissement vis-à-vis de l'opposant. Le procureur général, Tarek William Saab, a demandé au tribunal suprême de justice d'ouvrir une enquête préliminaire contre le président de l'Assemblée nationale. Le procureur général dit avoir demandé au juge 3 mesures préventives, l'interdiction de sortir du territoire pour Juan Guaido, l'interdiction de céder ses biens et la fermeture de ses comptes bancaires. Cela intervient au lendemain de l'annonce de nouvelles sanctions américaines, mais aussi de l'annonce par Juan Guaido qu'il prenait possession de tous les actifs vénézuéliens à l'étranger. La menace d'une arrestation pesait sur l'opposant depuis une semaine, depuis sa proclamation comme président par intérim. Elle s'est précisée un peu plus hier. L'intéressé a rapidement répondu alors qu'il se trouvait à l'Assemblée nationale. À part une menace de plus contre moi, le Parlement et l'opposition, rien de neuf, a-t-il assuré.
La carotte et le bâton à Caracas. Merci Benjamin Delisle, correspondant de France Inter au Venezuela.
Il est 8h05 en France, il neige, mais ça n'est pas Florence la Bérézina.
Pas de grande pagaille comme on a pu en connaître l'an dernier par exemple. La neige tombée cette nuit dans une bonne moitié du pays perturbe tout de même les déplacements. Ce matin, il n'y a plus que 15 départements en vigilance orange dans le nord et le centre-est. La Saône-et-Loire en fait partie. Où nous retrouvons Christophe Vincent en direct d'Autun. Bonjour.
Bonjour Florence.
Christophe, chez vous comme ailleurs, la situation est un peu compliquée ce matin, mais aux portes du Morvan, on peut dire qu'on a l'habitude, hein.
Oui, en ville, on circule plutôt bien. Il faut dire que les services municipaux sont sur le pont depuis 3h du matin. Des saleuses, des chasse-neige et une quinzaine d'agents en gilet jaune qui s'activent. Ici, la vie est presque normale dans une ambiance ouatée. Il a neigé sans cesse depuis 2h du matin et la couche atteint 5 à 7 cm sur la place de l'hôtel de ville. Mais les cafés sont ouverts et les bus fonctionnent. On est en lisière du Morvan, vous l'avez dit, la Mitterrandie, à 460 mètres d'altitude. Les gens ont l'habitude de ce climat rude. Cela dit, les routes de campagne ne sont pas toutes déneigées. Il est tombé par exemple 15 cm à Ouxy, à quelques kilomètres d'ici.
Christophe Vincent, en Bourgogne, en direct d'Autun, en Ile-de-France maintenant, où on attendait 10 à 15 cm de neige. Il n'y en a pas beaucoup à Paris ce matin, mais le trafic des bus est très perturbé, comme celui des Transiliens et des RERC, D et E. Les transports scolaires sont suspendus aujourd'hui dans tous les départements de la Grande Couronne, et là, National 118 dans l'Ouest reste fermé. Bonjour Valentin Dunat.
Bonjour.
Alors vous êtes entre cette nationale maudite, les jours de neige, et l'autoroute A10 sur la commune d'Igny dans l'Essonne. Comment ça se passe là-bas ce matin ?
Disons que les conditions de circulation dépendent un peu du réseau où on se trouve ici dans cette petite commune de l'Essonne, hein, Igny. On a un peu l'impression d'être dans une station de ski. Il y a bien 10 cm de neige, hein, des trottoirs, des routes qui sont encore blanches ce matin. Alors forcément, la circulation est difficile dans la commune. J'ai pu voir quelques glissades, des voitures sur le bas-côté. Et surtout en s'enfonçant dans les lotissements, là, ça devient presque impraticable. C'est aussi compliqué sur les départementales, même si la majorité sont dégagées. Mais dans ce secteur, sur le plateau de Saclay où je me trouve, à côté donc de cette nationale 118 qui a été fermée hier dès 15h, et bien c'est compliqué puisque cette nationale est très empruntée par tous ceux qui habitent dans le sud, les Saônes, les Hauts-de-Seine, les Yvelines, le sud de Paris, et donc tous ceux qui ont l'habitude d'emprunter cette nationale se reportent sur les départementales et les autoroutes, notamment là autour du plateau de Saclay. Mais d'une manière générale, comme vous le signifiez, et au département on vient de me le confirmer, hein, les routes sont dégagées, praticables, d'autant que ce matin il n'y a pas de camions, les poids lourds sont interdits de circulation. Pas de transport scolaire non plus. J'ajoute, par rapport au RER, c'est ce que vous disiez, à Igny, par exemple, exemple concret, depuis 6h du matin, il n'y a pas un RER qui est passé. Certains ont donc décidé de marcher jusqu'à Massy, avec des trottoirs un peu glissants. Il y en a pour une heure de marche, quand même.
Oh là là, Valentin Dunat, merci. Sur le plateau de Saclay, j'ajoute que tout le monde ce matin n'a pas d'électricité. Il y a des coupures de courant dans les Yvelines, dans l'Ouest également, notamment en Charente-Maritime, qui a subi le vent de la tempête Gabriel hier soir. La neige qui a raccourci la séance de l'Assemblée cette nuit. Les députés n'ont pas encore voté les articles et les amendements de la loi anti-casseurs, mais les groupes ont eu le temps de donner leur avis. Texte liberticide pour la gauche, trop mou pour la droite. Et en face de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, dans un style martial.
Chaque semaine, une petite minorité de brutes menace, vise, attaque. Nous avons choisi de dire aux forces de l'ordre, remarquable de professionnalisme et de sang-froid, que nous étions à leur côté. Nous avons choisi de défendre les millions de Français qui n'en peuvent plus plutôt que quelques milliers de brutes. De petits groupes opportunistes se greffent avec comme seul mantra la volonté de détruire. Ça suffit. Il est temps d'agir. Il est temps de stopper les brutes. Tolérance zéro contre les violences. Mesdames et messieurs les députés, ne ratons pas ce rendez-vous que nous avons avec celles et ceux qui s'engagent tous les samedis. N'aura-t-on pas cette opportunité d'être à la hauteur de leur engagement?
Voilà, 8 fois le terme brut en 14 minutes de discours de Christophe Castaner, raconté Karine Bécard, qui a suivi les débats pour nous à l'Assemblée cette nuit. Débat sur la violence à l'Assemblée, débat sur la justice fiscale dans les nombreux débats organisés partout en France. Ce matin, dans notre série Les clés pour comprendre, nous nous penchons sur la question de l'héritage, le patrimoine transmis quand on en a. C'est la société des rentiers, disait l'économiste Thomas Piketty. Alors faut-il alourdir les droits de succession? Éclairage, signé Hélène Philly. Les droits de succession rapporteront à l'État 14 milliards d'euros en 2019. Fiscalité honnie par des Français qui se demandent pourquoi repayer ce que nos parents ont mis des années à acquérir. Si le taux d'imposition pour une succession en famille peut effectivement monter jusqu'à 45%, l'un des plus lourds d'Europe, le taux moyen se situe en réalité autour de 5%. 80% des successions ne sont pas taxées et les inégalités se creusent. En 2015, 1% des Français les plus riches disposaient d'un patrimoine net supérieur à 1 800 000 euros, quand les 10% les moins aisés n'avaient pas plus de 3 000 euros. C'est un patrimoine hérité de plus en plus, toujours plus tard, 60 ans en moyenne. La question est donc pour d'autres, comment éviter la rente? Certains, plutôt à gauche, proposent de rendre le barème plus progressif pour alléger les petites successions et alourdir celles au-dessus de 150 000 euros. D'autres, plutôt à droite, suggèrent d'alléger fortement les droits de donation du vivant pour que l'argent soit réinvesti.
Hélène Philly, si on a une préférence pour le risque face à la rente, ce qui est mon cas, disait Emmanuel Macron il y a 2 ans, il faut préférer la taxation sur la succession aux impôts de type ISF.
8h11, un autre éclairage sur l'économie.
Et oui, les chiffres de la croissance 2018, ils viennent de tomber. Les richesses créées en France ont progressé d'1,5% l'an dernier, même si ce chiffre marque un recul par rapport à 2017. Ils correspondent aux prévisions et ça, c'est plutôt rassurant selon l'économiste Philippe Vechter.
C'est une bonne surprise parce que on avait la crainte de voir, notamment du côté de l'investissement des entreprises, un repli beaucoup plus marqué. Là, l'investissement ralentit, mais ne se replie pas. Donc c'est quelque chose qui est plutôt positif, qui montre la robustesse des entreprises françaises et de leur perception toujours plutôt positive de l'environnement.
Le point d'interrogation, ça reste la consommation.
On s'aperçoit que la demande intérieure ralentit très sensiblement, en phase avec les tensions sociales qu'on a pu avoir au dernier trimestre. En revanche, le commerce extérieur, lui, progresse. Et donc, globalement, l'année se termine de façon plutôt robuste pour l'économie française. C'est un petit peu surprenant, mais c'est plutôt intéressant. Ça montre que l'économie française est capable de résister dans un environnement adverse. Et c'est, de ce point de vue-là, quelque chose de positif.
L'économiste Philippe Vechter que vient de joindre Fabien Cazot. La fusion Siemens-Alstom s'éloigne encore un peu plus. Le président du groupe allemand affirme ce matin que Siemens ne cherchera pas à conclure un rapprochement avec le français à n'importe quel coût, dit-il, ajoutant même sans autre précision avoir d'autres options. Vous n'avez plus d'excuses, il faut se rassembler. L'appel de place publique hier soir à 4 mois des élections européennes, les nouveaux venus à gauche donner meeting à Paris, à l'Élysée-Montmartre. Et leur ultimatum commence petit à petit à faire effet, Maxence Lambrec.
Cet ovni politique commence à attirer des élus. Première victoire hier soir, la venue de la maire de Paris, Anne Hidalgo, accueillie par Raphaël Glucksmann.
Merci de venir.
Non, je t'en prie, c'est normal. Comme j'ai dit, je ne vais pas faire d'interview, mais je soutiens la démarche. Je suis là et je trouve que c'est une belle... Le beau démarrage de quelque chose, voilà.
Et on va y arriver.
Les socialistes s'accrochent à cette plateforme commune. La numéro 2 du PS, Corinne Narasiguin.
Nous devons faire le rassemblement maintenant, dépasser les calculs boutiqués. Le Parti Socialiste y est prêt.
Benoît Hamon a aussi envoyé une de ses fidèles, Aurore Laluc. La porte-parole de Génération ne veut plus de cette gauche en morceaux.
Je nous trouve collectivement minables, je nous trouve collectivement irresponsables face à l'histoire.
Puis l'ancien écolo Noël Mamère accentue la pression.
Nous avons des partis politiques qui font preuve d'une grande absurdité, qui ont un comportement que je qualifierais de tragique.
Alors Place Publique propose 10 engagements pour partir unis aux européennes.
Le 5e point. Contre l'Europe des lobbies et de la finance.
Le projet paraît consensuel, mais sur scène, toujours personne d'Europe Écologie Les Verts ou du Parti communiste. Raphaël Glucksmann se donne encore 2 mois pour tenter de réunir la gauche.
C'est une petite victoire pour Theresa May, la première depuis de longues semaines de défaites successives face à ses alliés et à ses opposants au Parlement. Cette nuit, ils ont validé sa stratégie de renégociation de l'accord du Brexit à condition qu'elle retourne à Bruxelles et qu'elle réussisse à modifier le dispositif nord-irlandais qui bloque depuis le début à Londres. La balle est donc dans le camp européen maintenant, sauf que Bruxelles et les 27 n'ont pas l'intention de céder. L'accord n'est pas renégociable, a redit Emmanuel Macron hier soir. Deux naufrages dans l'océan Indien hier. Deux naufrages et 130 disparus au large de Djibouti. C'est la première fois qu'on parle de naufrage ailleurs qu'en Méditerranée. Alors que l'Allemagne, la France, le Portugal, Malte et la Roumanie proposent à l'Italie de tenter de régler le problème du Sea-Watch 3, ce bateau bloqué depuis 10 jours au large de la Sicile avec 47 migrants à bord. C'est l'histoire d'un club qui s'enfonce depuis le début de la saison. Monaco, toujours plus bas, éliminé hier soir de la Coupe de la Ligue en demi-finale au tir au but. Et c'est Guingamp qui disputera la finale. Enfin, une coccinelle rusée, une araignée amusante, des fourmis organisées, tout ça c'est minuscule, formidable épopée des insectes en décor réel. Minuscule 2 qui sort cette semaine au cinéma, c'est toujours aussi réussi, Corinne Pellissier.
Le succès inattendu il y a 4 ans du premier volet de leurs aventures leur a donné des ailes. 4 millions de spectateurs en salle, un César et l'envie d'exporter la formule un peu plus loin. Adieu donc les montagnes enneigées du Mercontour, l'expédition se déroulera cette fois-ci en Guadeloupe, au milieu de décors somptueux, toujours filmés en prise de vue réelle. La mer, les palmiers, la jungle, un nouveau monde, de nouvelles rencontres et de nouveaux dangers pour mettre à l'épreuve encore une fois les belles valeurs d'entraide et de fraternité véhiculées dans le film. Il faudra bien du courage au trio de la saga, la coccinelle, la fourmi, l'araignée pour affronter une bande de fourmis tueuses, un requin affamé, une horrible mante religieuse afin de porter secours à une autre petite coccinelle tombée dans un carton de livraison et embarquée au bout du monde. Un récit toujours sans parole et rempli de péripéties au son de la musique de l'Orchestre National d'Île-de-France. La BO, les effets visuels, la réalisation, tout témoigne ici d'un savoir-faire à la française. Une formule qui fonctionne et que le monde entier nous envie. Le premier volet de Minuscule est un succès de vente en DVD, sorti dans plus d'une cinquantaine de pays.
Minuscule, ou la seule araignée qu'on a envie de gratouner sur le dos.
Gratouner.
Elle est très sympathique, l'araignée de Minuscule.
Très beau verbe. Merci Florence Paracuelos.